Je m'appelle Julia, j'ai 32 ans et en 2017, j'ai décidé de tout plaquer pour entreprendre un voyage en solitaire.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Julia raconte la Colombie. Avec elle, on a parlé de fruits de la passion, de guérilla et de dauphins.
J'ai bourlingué à travers le monde.
Donc ça faisait plusieurs années que j'avais envie de repartir sur les traces de mon premier amour qui était l'Amérique du Sud, après un voyage universitaire au Chili. Et en fait, j'étais pas bien dans ma vie. Pourtant, j'avais tout ce que certaines personnes rêvent d'avoir, un CDI, un copain, un appart. Et je vivais dans une ville qui, par ailleurs, est très, très agréable, où il fait bon vivre, comme on dit, qui était Toulouse. J'avais tout ça, mais j'étais pas à ma place. Je me sentais pas en train de vivre ma propre vie et je jouais à une vie qui n'était pas la mienne, en fait. Donc, du coup, j'ai tout plaqué. Évidemment, j'ai regardé plein de vidéos de voyageurs, de voyageuses seules, parce que forcément, je voulais partir bien préparée. Rien de ce que j'avais préparé ne s'est passé comme ce que j'avais préparé. Et tant mieux. Donc, je suis partie avec un sac à dos super léger. J'ai commencé à prendre un vol... En fait, j'ai cherché un vol le moins cher et ce qui est sorti en premier, c'était Cuba avec une compagnie low cost et sans bagages en soute et uniquement de 8 kilos. Donc ça m'a forcé à partir voyager léger et de toute façon, c'est ce que je voulais. Je voulais partir libre et comme je l'avais en bonne élève bien renseignée, j'avais lu que il vaut mieux avoir pas plus de 10% de son poids, donc j'ai aussi respecté la consigne et je suis partie avec mes petits 8 kilos. J'ai fait un mois à Cuba, tout s'est bien passé, sauf que j'ai été malade, j'avais pas internet, mais ça a été quand même une libération. Et quand je suis arrivée à Bogota, j'ai eu un coup de cœur tout de suite pour la Colombie. Donc je suis arrivée à Bogota et pourtant les gens m'avaient dit tu vas voir c'est une grosse ville, elle est pas jolie, il y a beaucoup de bruit, les transports c'est horrible et en fait j'étais agréablement surprise, je m'en souviens encore, je suis arrivée de nuit avec un taxi et j'ai vu en fait les montagnes, j'ai senti l'altitude et ça m'a, je sais pas, ça m'a comme ancrée, ça m'a rassurée et j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose dans ce pays. Et j'allais pas être au bout de mes surprises. Donc, tout ça pour dire que finalement, depuis ce voyage, je me suis jamais réinstallée en France. Et qu'aujourd'hui, je vis à Medellín depuis plus d'un an. Et j'ai eu l'occasion de faire, de parcourir quand même pas mal la Colombie. Au final, j'avais prévu de rester un mois et je suis restée 5 mois. Donc, l'itinéraire initial, c'était de descendre jusqu'au Chili. Et en fait, la Colombie m'a happée, littéralement. La Colombie, c'est un gros coup de cœur. Je suis tombée amoureuse du pays. C'est un pays qui, comme je dis souvent, c'est des pays dans un pays. C'est un pays qui a 1000 facettes, qui connaît une diversité à plein de niveaux, de climat, diversité ethnique, diversité culturelle. Tu as... un type de danse par région, évidemment gastronomique, même si pour moi, la gastronomie, c'est pas trop le point fort de la Colombie, mais par contre, ouais, une diversité, un brassage culturel, un métissage, en fait, qui, moi, me fascine, et c'est un pays avec une énergie incroyable, très très vibrant, très coloré, voilà. Un des voyages qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai fait dans le Guaviare. Donc, alors pourquoi il m'a marqué ? Déjà, c'est une région où très peu de gens vont. Et moi, j'aime bien aller hors des sentiers battus. Et quand on me dit « Non, mais n'y va pas parce que c'est dangereux », bah, j'avais quand même envie d'y aller. Donc, le Guaviare, en fait, historiquement, en Colombie, c'est le territoire de la guérilla. Forcément, il y a quand même quelques mises en garde, mais j'avais une amie sociologue bien renseignée qui m'a dit « Tu peux y aller, il n'y a pas de problème ». Va avec tel guide, il t'emmènera un peu partout. Donc du coup, bah aussi intéressée par rapport à l'histoire du pays et au conflit armé, parce que petite parenthèse que j'ai oublié de préciser, quand j'étais au Chili, je bossais pour Amnesty International, j'étais en stage, et du coup je travaillais sur les droits de l'homme en Colombie. À cette époque, c'était trop dangereux d'être en Colombie directement pour travailler à la défense des droits de l'homme. Et donc j'étais hyper intéressée de découvrir justement cette terre guérillera. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'en 2016, le gouvernement de Santos a signé des accords de paix avec les FARC. Donc c'est un moment historique dans l'histoire de la Colombie, qui fait que d'ailleurs il y a de plus en plus de tourisme, ça a beaucoup rassuré les gens, et il y a beaucoup de... Voilà, la Colombie aujourd'hui a un renouveau et un attrait qui s'explique aussi par rapport à ces accords historiques. Et du coup, dans le cadre de ces accords en 2016, le gouvernement a proposé aux FARC qui ont rendu les armes de construire en fait des veredas de paz, ça veut dire en fait des villages de paix, pour réintégrer les FARC qui ont rendu les armes. Donc ça m'intéressait d'aller voir, j'avais entendu dire par cette sociologue, ça m'intéressait d'aller voir justement comment ça se passait concrètement, est-ce qu'il y avait vraiment des FARC, est-ce qu'il y avait vraiment reconstruction d'un village de paix. Et comment en fait, après un passé aussi douloureux, on peut se reconstruire. Donc du coup, il y avait cet attrait-là, et du coup, bah, je suis partie en bus depuis Medellín jusqu'à Bogota. C'était un peu long, 11 heures. Après, j'ai fait Bogota, San José del Guaviare, et j'ai tout de suite senti dans le bus que ce voyage allait être différent. J'ai senti que ça allait être différent à la manière dont les gens m'ont regardé. Il y avait un groupe de jeunes collégiens lycéens, et en fait ils étaient choqués de voir une touriste, une gringa, dans un bus, parce que bah, personne va là-bas en fait. Et pendant tout mon séjour là-bas, j'ai vu, je pense, une Allemande, et c'est la seule personne étrangère que j'ai vue. Et pourtant, c'est une terre magnifique, et je vais te dire pourquoi. Donc j'arrive, je suis accueillie. Bon, forcément, quand on va dans un territoire comme ça, un peu hors sentier, tu te dis, bon, je prends des risques, mais je le fais quand même un peu en étant balisée et avec des guides locaux. Donc j'avais un guide qui me réceptionnait à l'arrivée. Et il me dit, bon, bah du coup, on avait un peu établi le séjour, et il me dit, bah on va faire tout en moto. Donc on va partir 5 jours, voilà, ça c'est ton guide, Milton, il sera avec toi, il va t'accompagner, il va tout te raconter. Il me dit, t'es la première personne qu'on va accompagner à la Vereda de Paz, donc, c'est aussi pour nous une expérience, allons-y quoi. Du coup, ouais, j'arrive à l'aube un peu décalquée quand même, il faut le dire, mais tout de suite, je sais pas, j'ai senti... Alors, je t'ai pas situé le lieu du Guaviare, ce qui est quand même important. On est au sud-est de la Colombie, au sud de Bogota, et juste au début de l'Amazonie. Donc, ce qui fait que, voilà, il fait assez chaud, c'est humide. Mais par contre, je sais pas, en terre amazonienne, il se passe toujours quelque chose, et il y a des bonnes ondes là-bas. Et je pense que, à cause de son passé, et le fait que ça a été pas beaucoup... que le sol est un peu vierge, et ben on sent en fait le côté sauvage en fait de la nature, le regard des gens, tout est pur, tout est authentique, et c'est ce qui fait que voilà, je me suis sentie voilà dans un territoire nouveau et qui m'attendait et qui demandait qu'à être découvert et être en interaction quoi. Donc du coup, on avait 4 jours qui en fait se sont transformés en 5 parce que ouais, j'étais conquise vraiment par le secteur. Et premier jour, mon guide super sympa m'emmène dans des formations rocheuses. Bon, j'y vais avec lui, super chaud. Le responsable me donne un t-shirt manche longue pour me protéger du soleil. Il me dit, là, faut vraiment, t'es en moto. Donc, je suais. Il était noir, le t-shirt. C'était un peu horrible, mais bon. Donc, j'arrive dans le... Voilà, j'étais bien dans le décor, bien plantée dans le décor. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans la visite parce que j'étais fatiguée. Mais j'arrive et on me montre des formations rocheuses énormes. On rentre dans une faille. Il y avait des racines qui tombaient, qui dégoulinaient de partout. Une rivière naturelle. On se baigne. Il y a des petits poissons qui viennent nous faire une pédicure naturelle, voilà. Donc c'était un peu décalé, je m'attendais pas à ça. Et puis je me dis, bon, oublie pas pourquoi t'es là, t'as quand même envie d'en savoir plus sur ce passé guérilla. Donc il faut savoir que du coup, ce passé guérilla, c'est que c'était le territoire, puisque le gouvernement d'antan, dans les années 70-80 il me semble, avait officiellement attribué cette parcelle de Guaviare aux dirigeants des FARC. Et petite parenthèse, quand on a libéré Bettencourt, c'était là-bas qu'elle était. Donc voilà, on est vraiment au cœur du conflit et du territoire des FARC. Bref, quand il me fait visiter, je trouve ça très joli et tout, mais je me dis, en fait, j'ai envie d'aller dans la substance, quoi. J'ai envie qu'il me raconte qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc je lui dis, bon, c'est quoi l'impact? Je lui pose la question du but en blanc. Voilà, on m'a dit, mon copain m'a dit, non, moi, il est colombien. Il m'a dit, moi, jamais je mettrai les pieds en territoire guérilla, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'était pas du tout rassuré. Il voulait pas que j'y aille. Je lui dis, t'inquiète pas, j'y vais, voilà, balisé. Mais je lui dis, quoi. Je lui dis au guide, raconte-moi, quoi. Dis-moi en plus. Et là, il m'a raconté un truc pour te dire l'ampleur, quand même. Il me dit, bah ouais, la cocaïne à l'époque, la pasta. Donc c'est une pâte, hein. La cocaïne, c'est la pâte avant qu'elle soit transformée. Ben c'était en fait la monnaie du village, quoi, de la ville de San José del Guaviare. C'était la monnaie. Tout le monde dans les maisons avait une petite boîte en bois là où il rangeait sa pasta. Et du coup, il me dit, ben voilà, on avait notre argent en pasta. Et en fait, moi, je me souviens être allée acheter une glace dans la tienda, le petit magasin, avec mon sachet, quoi. Et c'était comme ça, en fait. Mais personne ne consommait. C'est-à-dire que c'était une monnaie, mais il n'y avait pas le vice de se droguer, de prendre de la cocaïne. C'était vraiment, en fait, une mercancía, une marchandise. Comme tu pourrais avoir, je sais pas, être payé en baril d'essence au Venezuela, j'en sais rien. Et à l'époque, c'était ça, quoi. Pour te dire l'ampleur, la, voilà, comme c'était hyper répandu à l'époque, quoi. Tout ça, évidemment, a bien changé. Et je suis un petit peu embêtée de parler cocaïne quand on parle de la Colombie, parce que, voilà, l'image que les gens en ont, c'est vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de changements. Bien sûr, il y a un tourisme mauvais. Mais voilà, moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément envie qu'on associe la Colombie à la cocaïne ou au FARC, en fait. Ça me dérange, mais c'est aussi aujourd'hui encore une réalité. Voilà, dans l'actualité, on en parle encore, des dissidents des FARC, encore récemment, et des accords de paix qui ont été un peu suspendus avec la nouvelle présidence de Duque. Donc, voilà. Donc, pour revenir à mon histoire, quand il me raconte cette anecdote, je tombe des nues. Et je lui dis, comment ça a pu changer? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on en est où? Voilà, il commence à m'expliquer que la région a beaucoup changé ces dernières années, que effectivement le gouvernement a lancé une chasse contre les champs de coca, malheureusement au glyphosate. Et donc aujourd'hui, pour la petite histoire, la production principale des champs de coca, c'est Pérou, Équateur. Sinon que la Colombie a gardé le savoir-faire de la transformation de la coca et de la pasta de coca en cocaïne, et que, en fait, le trafic de drogue, il m'explique, hein, c'est lui qui m'explique tout ça. Il est maintenant aujourd'hui aux mains des cartels du Mexique. Mais donc, je tombe des nues, donc je me dis, mais en même temps, je me dis, bon, bah, c'est bien, c'est pour ça que je suis venue, pour en savoir vraiment plus et connaître la réalité du pays, d'une époque. Évidemment, il me dit, voilà, maintenant, nous, on est dégoûtés parce que bah, la cocaïne, en fait, c'est le narcotrafic, c'est vraiment aux mains de certaines personnes et ça fait du mal au pays. Et la première chose que les gens te disent, c'est « Ah, Pablo Escobar !» Et en fait, ils sont un petit peu blasés par rapport à ça. Mais bon, c'est voilà, il faut faire avec. Sûrement, t'as entendu parler de narcos la série qui a eu des pour et des contre. Ça encense un petit peu El Patron, comme on dit, hein, le patron. Et en même temps, ça a quand même fait venir des gens et ça a permis de changer l'image puisque les gens se rendent compte qu'on est loin de la réalité des années 80-90, quoi. Voilà, donc on continue notre petit tour à moto. Et là, en fait, ce que je veux te faire partager, c'est que c'est une super région. Premier soir, on arrive et on commence à monter la tente dans des thermales. Donc, c'est des sources d'eau chaude naturelles. Et là, je me dis, mais inédit, pleine lune. Mais j'avais chaud de tout le voyage et il me met dans l'eau chaude, quoi. Donc, je lui dis, ouais, je suis désolée, excuse-moi, il faut que j'aille dans la rivière froide à côté. Tout se passe super bien. On monte les deux tentes, on est accueillis et on est parti pendant les 4 jours suivants à moto. C'est un territoire, t'as pas beaucoup de relief, contrairement au reste de la Colombie, mais beaucoup de plaines, de forêts. On a vu des guacamayas, donc c'est l'oiseau emblématique, c'est un perroquet magnifique, majestueux, l'emblème du pays parce qu'il a les couleurs du drapeau, jaune, rouge et bleu. Donc tu le vois en totale liberté, tu l'entends, il a un cri perçant. On s'arrête, il me dit, bah tu vois ce genre de pont, ça en bois, ça a été construit par les FARC. Mais voilà, aujourd'hui ça sert encore. On s'arrête, on voit un titi, c'est un petit singe adorable. Donc tout est, voilà, t'as la nature à l'état vif, à l'état pur comme on dit. Et je lui en demande un peu plus, je lui dis, c'est quoi en fait une terre guerrière, ça veut dire quoi? Il me dit, bah, tu vois, les villages, ils étaient vraiment sous contrôle. C'était eux qui faisaient la loi, en fait. Par exemple, si quelqu'un volait, on pouvait lui couper un bras. S'il y avait un viol, on coupait les parties génitales. Donc, c'était, voilà, un territoire à part entière aux mains des FARC, quoi. Et ça me paraissait incroyable, en fait, qu'on traverse des espaces qui ressemblent quand même. Enfin, où tu vois des gens en Colombie, typiquement, avec les petites cases en toit de tôle ondulée, la tienda, le petit magasin, tu retrouves tout. Mais tu sais qu'il y a eu un passé super dur, quoi. Et donc ce qui m'a beaucoup marqué dans ce voyage, ça a été évidemment la rencontre à la Vereda de Paz, ce village de paix, en fait, construit dans le cadre des accords. Et on arrive en moto, et il me raconte, bah moi, en fait, j'ai ma cousine, elle a été enlevée à l'âge de 13 ans par les FARC. Et en fait, maintenant, elle a 29 ans, et elle est retournée, elle a pu rentrer chez elle, après toutes ces années, elle est rentrée et maintenant elle vit dans cette Vereda de Paz. Donc elle avait 29 ans. En fait, en gros, elle a vécu plus de temps dans la selva, dans la jungle. Elle montait, comme on dit, c'est-à-dire dans les bois, quoi, dans la forêt, qu'avec ses parents, quoi. Et là, je dis, bah, tu crois qu'on peut rencontrer ta cousine? Il dit, ouais, bien sûr, bah, d'abord, je vais te présenter au chef. C'est pas un chef, en fait, c'est un représentant de la communauté. Il va te faire le tour un peu des installations et après, rendre visite aussi à ma cousine. Et en fait, on rentre, il y avait des petites cases un peu plus. Donc coloré, un peu d'un standing un peu plus élevé que ce que tu vois sur les bords des routes dans les villages. Ils sont à peu près 500, donc ça paraissait pas. Il y avait des cases canassées. En fait, il y a certaines personnes qui sont parties parce que le représentant m'explique que le gouvernement n'a pas rempli toutes les conditions des accords, quoi. Le deal, c'était qu'en gros, ils rendaient les armes, les FARC, en l'échange de la libération de certains prisonniers, en l'échange donc eux, ils ont obtenu d'avoir un SMIC colombien, donc c'est-à-dire 800 000 pesos, 225 euros, versés pendant 1 à 2 ans, et surtout qu'ils les forment au travail des champs, des cultures. Donc le représentant m'explique en fait au fur et à mesure de la visite que le deal, il est pour eux, il n'est pas respecté parce qu'ils n'ont pas vraiment reçu toute l'aide nécessaire d'abord pour se former à la production des cultures, et surtout ils ont des productions de fruits de la passion très bonnes mais ils ne peuvent pas les acheminer à Bogota pour les vendre. Donc il y a une frustration un petit peu parce que il y avait beaucoup d'attentes. Et du coup, t'as une partie quand même des FARC. Il y a eu un autre village qui a été construit et aujourd'hui, il est déserté. Et en fait, ils sont repartis dans El Monte. Donc, ils sont repartis à rejoindre la dissidence des FARC qui a signé les accords. Du coup, je voulais te parler de cette rencontre avec la cousine de mon guide. En fait, ça a été une rencontre... on n'a presque pas parlé. Tout s'est passé dans le regard, dans le silence. En général, les Colombiens, ils sont très avenants. Et là, c'était très différent. Parce que je sentais, en fait, la lourdeur du passé. J'ai senti tout le poids, en fait, de ce qu'ils ont vécu. Donc, une femme, 29 ans, elle paraissait avoir beaucoup plus. Elle était charpentée, des épaules larges, basses. Et tu sentais la force, en fait. Quand je suis arrivée, ils étaient en train de lancer la terre à la pelle pour faire un trou ou une creusée. Et ça m'a impressionnée, quoi. J'ai senti, tu vois, toute sa présence, cette force. Et j'ai deviné, en fait, quoi. Le guide m'explique. Il me dit, en fait, une arme, c'est lourd. Et il faut de la force pour la porter et aussi pour supporter le recul d'un tir. Donc forcément, les femmes, en fait, elles sont encuerpadas, elles sont charpentées, quoi. Et qu'en gros, eux, ils étaient très contents de pouvoir être dans ce village. Et ils avaient une petite fille d'un an. Et donc, tu sentais que c'était le rayon de soleil de la famille, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai pas trop osé rentrer dans l'intimité, dans la douleur, remuer le couteau. Mais je lui ai quand même demandé, le conflit. Et elle m'a dit une chose. No quiero escuchar más del monte. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux plus en entendre parler, quoi. Enfin, c'est, voilà, finito. Donc ça, c'était un moment fort. Après, pour parler d'un truc un peu plus sympa, pour ceux qui ont envie de s'aventurer, ça vaut vraiment le coup. On a fait une autre sortie qui était très, 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 très chouette. Il m'a emmené dans un lac qui s'appelle la Dama Negra, la Dame Noire, où, en fait, t'as des dauphins d'eau douce. En totale liberté. Et ils me disent, écoute, les dauphins, ici, ils viennent à la rencontre des gens. En fait, tu vas te mettre dans l'eau. Et en gros, si t'as des bonnes ondes, ils viendront vers toi. Et ils peuvent même jouer avec toi. Et du coup, donc, on part à la rencontre des dauphins. Et donc, tout le trajet, hyper intéressant. On prend une lancha taillée dans le bois, à laquelle est apposé un moteur, tu vois. Et on fait la rencontre d'un propriétaire d'une finca, d'une ferme, qui est en train de reconvertir le champ de coca, anciennement champ de coca, en ferme agronomique écologique. Et du coup, d'essayer de faire percer le tourisme. Et c'est lui qui nous emmène à la rencontre des dauphins. Et donc, il me dit, vas-y, avec le gilet. On était quatre. Il y avait un couple de Colombiens aussi là, en touriste, un peu par hasard. Puisque je te dis, personne n'y va normalement. Et donc, il me dit, commence à jouer avec la corde du bateau. Donc, un pauvre bout de corde attaché à la pirogue. Et là, je remue et je me dis, mais ça marchera jamais. Je me détends, je me dis, bonnes ondes, t'es une bonne personne, ils vont s'approcher. D'un seul coup, je sens la corde qui se tire. Et là, il commence à jouer, à me tourner autour. Et il me soulève par les pieds. Et là, j'ai un cri de joie c'était sorti de mon corps, ce genre de cri incroyable. Et je te jure, c'est fascinant parce que tu la texture, tu sens en fait ce moelleux visqueux du dauphin et se met à jouer avec moi. Et c'est un souvenir juste fou. Et je crois que la Colombie, c'est un peu la terre des dauphins. Parce que j'ai une autre expérience comme ça où je nageais dans le Choco et c'est un peu la terre des baleines. Et en fait... J'ai des dauphins qui sont approchés, qui ont sorti leurs nageoires, et enfin, c'était incroyable, quoi. Et la troisième anecdote, en Amazonie, pareil, des dauphins, mais là, c'est plus courant, des dauphins roses d'Amazonie qui sont venus nous approcher en kayak. Voilà, ça, c'était un des jours très marquants, le dernier jour, et le jour pour lequel j'ai décidé de rester, en fait. C'était pour voir les dauphins, et c'était vraiment fou. Mais, encore une fois, c'est pas du tout... on n'est pas dans Aqualand, quoi. C'est dans un territoire hyper sauvage. Tu fais une demi-heure de lancha, de bateau, pour accéder à la finca. Après, la ferme, tu marches pendant une demi-heure. Donc, tu sens que t'arrives un peu au bout du coin, et c'est une pépite. Une pépite, et il n'y avait personne. et t'as des dauphins qui viennent te caresser, quoi. Donc c'est juste complètement fou. Et c'est ça la Colombie, tu vois, c'est ça aussi la Colombie. C'est sauvage et intense et magnifique. Et il y a un site aussi hyper intéressant, c'est un site où tu as en fait des peintures rupestres qui datent de la préhistoire et t'as des pictogrammes qui sont encore indéchiffrés dans les tons rosés et t'as sur une hauteur de 20 mètres en fait un pan de mur gigantesque de pictogrammes et qui malheureusement est en train de un peu s'effacer. Donc je veux dire vraiment aux gens... Allez-y vite, parce qu'il y a des trésors et des pépites, et c'est un site voilà, qui m'a beaucoup touchée. Il se passe quelque chose dans cette région, et du coup, voilà, je t'invite à y aller, et à découvrir ça.
Merci beaucoup pour ton récit.
Avec plaisir.
Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Comme je te disais, en fait, c'est vraiment un territoire qui, aujourd'hui, n'a pas vraiment une super réputation. Et ça m'intéresse d'en faire un peu changer l'image et de partager ce que j'ai ressenti. Et surtout que j'ai vraiment ressenti des choses extraordinaires et une super vibration.
Qu'est-ce que tu entends par vibration ?
L'énergie du lieu, des gens, l'accueil, les paysages, la nature et l'histoire. L'histoire de ce territoire aussi.
Pour se parler de manière un peu plus générale de ta façon de voyager, toi, est-ce que, avant de partir, t'as un rituel de pré-voyage ?
Alors, j'ai pas tout à fait un rituel. Je suis plutôt du genre à préparer mon sac au dernier moment pour un peu échapper au stress juste avant le départ.
Et justement, à quel point tu prépares tes voyages ? Est-ce que t'es en mode impro total une fois que t'es sur place ou tu te renseignes quand même un minimum avant de partir ?
Alors je crois que je me suis rendu compte comme beaucoup de voyageurs que souvent les plus beaux voyages, les plus belles rencontres, c'est quand on improvise. Donc maintenant je pense qu'il faut quand même être un peu prudent quand on va dans une zone ou un pays qu'on connaît pas. Évidemment je me renseigne et en général je vais réserver les 3 premières nuits, avoir une idée assez vague de l'itinéraire, et après ce qui m'intéresse c'est beaucoup de prendre en compte la vie des locaux et des gens que je vais rencontrer sur place.
Justement, dans ton sac, qu'est-ce qu'on va toujours trouver ?
Alors j'essaie d'emmener un kawaii un maillot de bain parce que j'aime bien aller dans les endroits où on peut se baigner, et je me suis rendu compte que un peu malgré moi en fait j'emmène souvent une pierre qui traîne ou qu'on m'a donné. Donc j'y pense pas toujours, mais au dernier moment je la vois et je l'emporte. C'est un peu un gris-gris, donc un quartz rose, une améthyste.
Par rapport aux vibrations de la pierre ?
Ouais. Par rapport aux vibrations de la pierre, et c'est pour se rassurer, et aussi ça me fait plaisir d'avoir un élément géologique avec moi, un petit bout de terre.
Une fois que tu es sur place et même une fois de retour au pays, comment toi tu racontes et comment tu documentes tes voyages ? Est-ce que c'est via des photos, des vidéos, un carnet de bord ? Est-ce que tu as un média préféré ?
J'aime beaucoup écrire. Donc en général, quand je suis dans les bus, et j'adore être dans les bus parce que c'est une méditation pour moi, et ben, je prends le temps de regarder et aussi je laisse vaguer beaucoup mon esprit et j'écris. Donc soit sur le carnet s'il fait jour ou dans mon téléphone, et ça je le partage mais de manière pour l'instant assez privée, voilà. Sur un groupe WhatsApp aux amis, à la famille. Évidemment je prends toujours des photos aussi, mais je suis pas très publique.
Une fois que t'es de retour au pays, est-ce que tu es atteinte de ce qu'on peut appeler le blues du voyageur ou le syndrome post-voyage, et si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Alors, du coup, j'ai eu la chance de pas rentrer vraiment pour de vrai, parce que je suis à Medellin, et je pense que j'ai un peu fui, du coup, ce blues. Pour l'instant, j'ai fait des allers-retours en France, et j'étais toujours encore dans l'euphorie, en fait, du voyage, et je pense que, voilà, ma démarche, mon histoire, elle est pas encore de celle du voyageur qui fait des allers-retours, qui rentre chez lui. Donc comme je suis installée ici, je n'ai pas ce blues.
Est-ce qu'au cours de tes voyages, il y a une rencontre qui t'a plus marqué qu'une autre? Et de manière générale, comment tu considères la rencontre en voyage?
Oui, il y a une rencontre qui m'a beaucoup marquée en Colombie. C'est une femme, 74 ans, une escapade pas du tout prévue. J'étais à Valle d'Upar et on me dit « Non, mais tu peux pas partir comme ça, il faut que tu ailles au village de Nabusimake. » Donc je me rends au terminal et on me dit « On partait en 4x4, c'est 2h30 cabossées de route. » Et on me dit « Il n'y a pas de place, attends de voir si la personne qui manque va se présenter. » Et en fait, la personne ne s'est pas présentée et j'étais assise à côté de cette femme. Et j'avais pris pas beaucoup d'argent. Là, pour le coup, j'avais rien préparé. Et je m'étais dit, je vais faire l'aller-retour dans la journée. Sauf que quand j'arrive, je vois qu'il y a un péage à l'entrée, enfin, un droit de passage, un droit d'entrée. C'était un village indigène des Arhuacos. Et je me dis, j'ai pas fait 2h30 en 4x4 pour rentrer le soir. Donc, je décide de rester. On m'emmène à l'hôtel. L'hôtel était hors de prix. J'avais pas d'argent. J'avais pas assez d'argent. Donc, je dis, je fais quoi? J'ai pas d'argent. Et en fait, cette femme, qui était appuyée sur moi pendant tout le trajet, voilà, tant bien que mal, on était coude à coude, un peu ballottés, m'a dit « écoute, viens à la maison ». Et du coup, j'ai vécu avec eux 3 jours, je l'ai vu tisser, fabriquer du fil de laine de manière artisanale, et il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité. Donc, on allait faire les besoins dans la forêt, on se baignait dans une rivière. Et cette femme, qui a eu 14 enfants, voilà, m'a impressionnée, quoi. Elle m'a impressionnée, ce petit bout de femme. J'aurais jamais imaginé, en fait, en m'asseyant à côté d'elle dans ce 4x4, tout ce qui allait découler. Et ça, c'était une rencontre, justement, inattendue et inespérée et très forte.
Pour se parler du futur, toi, c'est quoi tes projets de voyage ou tes fantasmes, des endroits où t'aimerais aller absolument?
Alors, pour ce qui est des prochains voyages, je vais te faire en 3 étapes. À court terme, j'aime bien visiter tout ce qui est les petits villages alentours. À moyen terme, j'aimerais beaucoup emmener mon mari en France. Finalement, c'est un peu l'inverse de tout le monde pour qu'ils découvrent la culture. Et à plus long terme, on aimerait beaucoup aller en Norvège pour les aurores boréales, entre autres.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc t'as un petit espace qui t'est réservé où tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, ce que tu veux. C'est à toi.
Oui, d'abord te remercier pour l'invitation.
Donc, merci beaucoup.
et pour ton émission et ce format et cet espace de liberté. Et ensuite, encourager les voyageurs à s'installer aussi sur, s'ils le peuvent, dans leur vie, à vivre dans le pays qu'ils visitent ou dans le pays pour lequel ils ont eu un coup de cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même toujours une petite différence entre l'enchantement d'un voyage de 3 semaines et la vie réelle, et on apprend beaucoup, énormément plus, et on fait des rencontres tout aussi belles en vivant un quotidien dans un pays étranger. Et finalement, c'est, je pense, pour ça que on échappe aussi un peu au blues, c'est qu'on est émerveillé et surpris tous les jours par la nouveauté et la découverte d'un pays de cœur.
Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.